Oui, mais c'est vrai que son objectif quand même premier restait quand même
oui, la Coupe du Monde 98. Donc on a eu 9 matchs en 98, dont le match d'ouverture Brésil-Écosse et évidemment des matchs de l'équipe de France, dont je crois le quart de finale face à l'Italie gagné au tir au but, la demi où Thuram met son doublé donc contre la Croatie et évidemment cette finale légendaire où j'étais dans le stade d'ailleurs.
Oh.
Et oui.
Ah mais c'est vrai que t'avais l'âge toi.
Contre le Brésil donc 3-0 avec ce doublé de Zidane de la tête.
Sublime, voilà. Sublime. Je pense que tout le monde se rappelle de ce moment majestueux. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Alors aujourd'hui nous sommes sur un podcast avec Jérôme. Salut Jérôme.
Salut Sandra.
Alors aujourd'hui c'est un podcast que tous les deux parce qu'on s'est dit que c'était une bonne idée étant donné qu'effectivement j'ai été visiter il n'y a pas si longtemps le Stade de France.
Qui est actuellement, je crois, en rénovation.
Exactement, notamment en rénovation, enfin, ou des Jeux Olympiques qui vont arriver. Voilà. Et c'est vrai que du coup, cette visite, elle a été assez enrichissante, j'ai envie de dire, dans le sens où il y a quand même des choses insoupçonnées au Stade de France. Et donc, du coup, on s'est dit que c'était pourquoi pas intéressant, en tout cas, de vous les partager tout simplement et peut-être, pourquoi pas, d'apprendre 2-3 petites choses.
Comme souvent chez nous.
On l'espère.
Du moins, on essaye, on va dire.
Du moins, on essaye. Mais en tout cas, moi, j'ai appris des choses pendant cette visite. Il me semble que du coup, tu as également appris
oui,
avec ce que je t'ai rapporté.
Oui, c'est vrai.
Exactement. Donc du coup, nous, on s'est dit, on n'est pas égoïste. Hein. On le partage à tout le monde. Alors déjà, le Stade de France, pour rappeler, il est situé à Saint-Denis, voilà. Donc en banlieue parisienne. Et le Stade de France, il a quand même pas failli s'appeler Stade de France. Alors pourtant, on pourrait dire quand même le nom, il est assez simple, Stade de France. Pourquoi ? Il y a eu ça, c'est parce que tout simplement, c'est le plus grand stade qui a été réalisé en France.
Oui.
Donc son nom, il n'est pas, on va dire, il n'est pas...
Pas quoi ? Évident ? Non ?
Justement, je trouve qu'il est évident.
Ah oui, presque trop évident alors. Ouais.
Presque trop évident, effectivement. Cependant, il a failli s'appeler quand même Stade Michel Platini, en référence bien évidemment à une légende,
oui.
Elyséum,
d'accord,
ou encore le Stade Bleu. Alors, ça aurait fait peut-être bizarre d'avoir le Stade Bleu, même ouais. Si on peut comprendre pourquoi, mais le stade n'est pas du tout bleu en non. Plus, donc peut-être qu'il nous l'aurait fait bleu à ce moment-là. Mais du coup, le nom Stade de France vient d'une chanteuse qui s'appelle Liane Folie. Alors,
ça, tu me l'as appris en off, oui. Ça, ouais. Je ne savais pas.
Alors, moi non plus, effectivement, je ne pensais pas que c'était, en tout cas, qu'elle avait glissé ce nom de Stade de France, donc du coup, au sein du comité de réflexion, qui était à l'époque présidé par Bernard Pivot. Et malgré tout, il a été validé, ce nom, Stade de France, par Michel Platini lui-même et Guy Dru, qui était effectivement, à l'époque, ministre des Sports sous l'ère de Jacques Chirac.
Voilà.
Enfin, sous la présidence, oui, en tout cas, oui. De Jacques Chirac. Donc voici, en tout cas, pour le nom. Et je trouve quand même que le stade, moi, je trouve qu'il porte bien son nom. En tout cas, il est très représentatif.
Et finalement, le nom est bien resté dans le temps. Ça va.
Exactement. Et il va y rester encore, oui. Normalement, pour un bon bout de temps. Comme on le disait, plus grand stade qui a été en tout cas créé, il a été écrit très très rapidement, enfin construit très rapidement, en 33 mois exactement.
C'est impressionnant pour une enceinte aussi grande.
Exactement, c'est-à-dire qu'on est sur le plus gros stade de France, 33 mois de construction, 4 architectes en tout qui ont œuvré en tout cas pour ce stade. Donc il y a eu Aymeric Zublena, Michel Macari, Michel Regembal, et Claude Constantine. Donc ce sont les 4 architectes qui ont pensé l'intégralité, en tout cas, du Stade de France. Alors le plus grand, bien évidemment, on va parler de sa capacité. La capacité du Stade de France est de 80 000 spectateurs, en tout cas 80 000 personnes assises.
Oui.
Parce que le stade, après vous allez voir, il n'est pas que en tout cas pour les événements sportifs, étant donné qu'il peut effectivement accueillir également des concerts. Donc on peut rétracter des sièges. Oui. Justement, pour justement avoir une capacité un peu plus grande et effectivement également diminuer cette capacité si on en a envie. Mais en tout cas, voilà, 80 000 places, c'est quand même un...
C'est pas le plus grand du monde, mais oui, c'est forcément pour la France, c'était une première.
Pour la France, c'est quand même beaucoup. Oui. Effectivement, en général, on est quand même moins des 50 000...
À l'époque du moins, depuis... Oui. Depuis, il y a eu quelques grands stades comme Marseille et Lyon.
Alors justement, ce que j'ai tendance à me poser la question, c'est que le Vélodrome, il y a...
Le nouveau Vélodrome maintenant qui s'appelle Orange.
Tout à fait.
Il doit être à 60 000, je pense.
Oui, voilà. Oui.
Lyon, et le nouveau de Lyon également. Mais, voilà. Mais à l'époque, c'était oui, extrêmement rare.
Mais c'était énorme. Alors bien évidemment, pourquoi justement on a fait un stade avec tu autant de capacité? Tout simplement parce qu'il a été construit pour la Coupe du Monde de 1998.
Voilà, forcément.
Donc forcément, on jouait quand même donc, du coup, principalement à domicile aussi. Enfin, la finale, en tout cas, il me semble, se faisait à domicile. Donc il fallait les mettre dans un bel écran.
Et surtout, je pense que c'était presque un cahier des charges de la FIFA d'avoir un stade aussi grand. Donc, du coup,
oui, tout à fait.
Pour que la France accueille la Coupe du Monde, il fallait forcément un stade d'une telle taille.
Exactement. Et donc du coup, bah, comme on vous l'a dit, 33 mois de construction, il a été inauguré le 28 janvier 1998 par le président de l'époque, Jacques Chirac. Alors, grand, bien évidemment, une superficie de terrain de jeu de 15 000 m² et une pelouse engazonnée de 8 000 m². Bien évidemment, hein, les dimensions d'un terrain de foot resteront toujours les mêmes. Cependant, c'est quand même beaucoup. Surtout que on va dire que le stade en tant que tel, ou en tout cas tout la place qu'il prend, on est sur, il me semble, 17 hectares, avec un parvis également qui est juste énorme, parce que c'est vraiment une grosse enceinte, en tout cas placée à Saint-Denis.
Qui de loin ressemble un peu à une soucoupe volante, on va dire.
Ça a été fait en anneau, c'est-à-dire que c'est un gros anneau. Au final, au-dessus, parce que c'est pour ça qu'on peut voir, alors si vous êtes dans un hélicoptère par exemple, vous pouvez voir que, que la structure au-dessus, donc les toits, sont comme un anneau, et on voit le cœur effectivement de la pelouse au milieu, étant donné que le Stade de France n'est pas couvert.
Et j'avais lu que lors de l'appel d'offres, il y avait donc une deuxième offre qui, elle, avait prévu un toit, donc qui n'a pas été retenue.
Non, mais parce que moi j'ai l'image encore, le Stade de France, les lumières qui partent au ciel. Et à l'époque surtout, c'est que ça ne se faisait pas forcément
de
couvrir. Maintenant effectivement on couvre beaucoup plus les terrains, parce que même par exemple Roland-Garros c'est couvert. Mais effectivement avant on était vraiment plus sur l'extérieur.
Effectivement.
Et je pense qu'il n'y a pas non plus, enfin aujourd'hui de plus en plus, mais même sur les anciens stades, ils n'ont pas couvert.
De mémoire, je pense qu'en France le seul qui a un toit c'est le stade de Pierre Mauroy à Lille, mais qui est plus récent du coup.
Voilà. Exactement, mais les autres, non. Donc, c'est-à-dire, en même temps qu'on est passionné, on y va même sous la pluie.
Voilà.
Alors, donc, du coup, pour quelques chiffres, le Stade de France, bien évidemment, il est très grand. Il y a énormément de choses à l'intérieur et des choses qui sont insoupçonnées, par exemple. Alors déjà, on va partir sur un autre point. Tout le monde voit le parvis, enfin, je pense, pour tous ceux qui ont déjà été au Stade de France. Mais quand on arrive sur le parvis, qu'on rentre à l'intérieur du Stade de France, on n'a pas accès à la pelouse directement.
Oui.
C'est-à-dire qu'on va descendre. Le stade, il est quand même enterré à 11 mètres. C'est-à-dire que la pelouse est 11 mètres plus bas que le parvis sur lequel on arrive.
Ça, c'est vraiment un truc que tu m'as appris, je ne savais pas du tout.
Mais moi non plus.
Alors que j'y étais vraiment des dizaines de fois.
Mais en plus, on ne se rend même pas compte que l'on descend en fait de 11 mètres. Parce que 11 mètres, c'est quand même pas rien.
C'est énorme.
Exactement. Et alors pourquoi, bien évidemment, il a été enterré. En tout cas, il a eu l'obligation de ne pas dépasser une certaine hauteur. Donc c'est pas le fait de l'enterrer, c'est plus de ne pas dépasser. Tout simplement, pas très loin, il y a la basilique Saint-Denis, notamment qui est quand même le sanctuaire royal, en tout cas, pour la France. Et en fait, le stade n'avait pas le droit, ou en tout cas tout bâtiment, parce que c'est pas que pour le stade, il n'avait pas le droit en fait, de dépasser la hauteur de la flèche de la basilique de Saint-Denis. Donc pourquoi justement il a été enterré? Pour justement qu'il soit pas au-dessus, parce que sinon ça n'aurait pas été légal, étant donné que c'est des lois qui sont appliquées en tout cas à ce moment-là. Donc en général, effectivement, aucun bâtiment ne surplombe une basilique, une cathédrale, etc.
C'est assez marrant de voir toutes les corrélations entre monde sportif et religieux, du coup.
Exactement. Donc c'est-à-dire que ça, ils ont dû quand même l'intégrer dans les 33 mois de construction, en tout cas toute la réflexion avant, parce qu'il a quand même été réfléchi à partir de 1994. Donc ils ont quand même eu 4 ans de réflexion et de construction.
Oui.
Donc c'est quand même beaucoup. Donc voilà, donc en tout cas il est enterré donc de 11 mètres. Donc le gazon se trouve à 11 mètres à l'intérieur, en tout cas en dessous du parvis. Et il va plus loin que ça, parce qu'il y a une autre partie également qui est enterrée.
Laquelle?
En dessous. C'est-à-dire à 17 mètres, donc soit 6 mètres plus bas
que le terrain.
Que le gazon, en tout cas le terrain, il y a le bassin de rétention des eaux pluviales le plus grand d'Europe.
Ah oui.
Donc, c'est-à-dire que, en fait, sous ce stade,
il y a un bassin de rétention.
Il y a un bassin de rétention, effectivement. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, parce qu'en plus, il me semble que l'on peut aller visiter le bassin, mais en tout cas, c'est surtout le fait qu'en fait, c'est le plus grand
d'Europe.
En même temps, stade grand, pourquoi pas aller y mettre un petit peu d'eau de pluie en dessous. Alors justement, comment elles sont récupérées? Pour ceux qui visualisent, on essaiera de vous mettre des images, mais pour ceux qui visualisent, effectivement, on a comme des espèces de bateaux, en fait, comme des pieds, en fait, qui vont de haut en bas. Et en fait, l'eau est récupérée par ici, parce que ça fait une sorte de bateau, et après, il y a des câbles, etc., et tout redescend. Donc le plus grand d'Europe, bien évidemment, donc ça veut dire qu'on amasse quand même pas mal, mais ce qui veut dire aussi que potentiellement on ne sera jamais à court de à court d'eau en tout cas, donc ce qui est plutôt aussi une bonne chose.
Alors ce que tu m'as appris également, c'est qu'il y a pas mal d'endroits qu'on ne soupçonne pas au Stade de France.
Alors
des
oui,
trucs,
effectivement.
Incroyables, franchement.
Parce que donc bien évidemment, nous ce qu'on voit en général quand on y va, on est dans les gradins, on voit la pelouse, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'anneau justement? Qu'est-ce qu'il y a dans l'anneau? Alors, l'arrivée des joueurs déjà. L'arrivée des joueurs se fait par en dessous. Donc on a, moi j'ai eu l'honneur effectivement de passer par cet endroit-là. Ils nous ont vraiment fait visiter. D'ailleurs, tout le monde peut aller visiter le Stade de France, donc c'est super intéressant pour les amateurs. On entre par une entrée pour les joueurs, donc c'est là où tous les grands joueurs sont passés. Normalement, il y a tapis rouge, nous on l'avait pas malheureusement. Donc il y a les cars, les voitures, etc. qui peuvent se garer dans le parking. On rentre à l'intérieur et en fait le premier truc que l'on a, ce sont les pièces pour les arbitres, d'accord. Les bureaux d'arbitres.
Ah ouais.
Et en fait, pourquoi justement les bureaux d'arbitres sont aussi proches de la sortie ?
J'en ai bien peur de connaître la raison.
Et mais j'ai été assez surpris. En fait, c'est pas illogique, mais c'est assez surprenant. Oui. C'est que sait-on jamais si potentiellement il y a eu conflit pendant le d'accord. match ou il y a eu en tout cas des choses, les arbitres n'ont pas à voir les joueurs. Donc en fait, ils ne se croisent pas à ce moment-là et les d'accord. arbitres peuvent partir directement étant donné qu'ils sont à 50 mètres de la porte, là où ils sont placés.
C'est bien fait.
C'est bien fait, effectivement. Tout comme, un autre point, c'est que, par exemple, les deux équipes qui se rencontrent, pareil, ne se croiseront pas avant d'arriver dans le couloir d'entrée, effectivement, qui se trouve juste avant, effectivement, le stade. C'est là où on les voit, où ils sont en général avec les jeunes joueurs. Mais voilà, ils ne se voient pas du tout avant. Et quand on va à l'intérieur, en fait, c'est vraiment divisé en deux. Et c'est vraiment très, très bien fait parce que pourtant, une fois après, effectivement, les arbitres, il y a les vestiaires. Et les vestiaires, c'est pareil. C'est impossible de se croiser.
Donc il y a vraiment deux parties distinctes pour deux équipes.
Deux parties distinctes d'accord. avec les mêmes éléments. Donc il y a les vestiaires comme on peut le voir souvent à la télé effectivement. Donc vous le voyez bien avec le gros bloc en bois qui est au milieu.
On a oui, pu ça voir, on a vu l'image des dizaines
exactement.
De fois.
Exactement. D'ailleurs, je le pensais plus grand que ça le vestiaire quand on le voit à l'image. Et en fait, bon bah non, il n'est pas si grand. Mais il n'est pas si grand sur ce que l'on voit. Par contre, derrière, en fait, il y a plein de choses. Donc déjà, forcément, ils ont tout ce qui est les sanitaires. Ils ont également des bains de récupération d'eau froide qui sont également là. Donc chacun a sa place dans le vestiaire. Et également, ils ont accès à une pièce d'entraînement.
Oui, à l'intérieur.
Ouais. Alors chacune des équipes, hein, du coup, a sa pièce d'entraînement. Et voilà, c'est une pièce, elle n'est pas si grande que ça, mais en tout cas, c'est pour s'exercer, en tout cas, au tir.
Oui, je sais que dans certains matchs, l'équipe, parfois, n'est pas allée sur le terrain avant le match échauffé. Parfois, ils s'échauffent que dans la pièce d'entraînement, en fait.
Oui, mais parce qu'en plus, cette pièce-là, elle a la particularité de pouvoir monter jusqu'à 40 degrés. Pour éviter en tout cas toute blessure ou autre. D'accord. Et elle est vraiment un truc variable. Mais moi, je m'attendais vraiment à une pièce d'entraînement, comme un beau petit gymnase, en fait. Mais pas du tout, c'est juste une pièce, le sol est bleu. D'accord. En haut, il y a un filet pour pas que justement le ballon puisse éclater le plafond ou autre. Et c'est vraiment assez petit. Donc ça, c'est pour la partie plutôt joueur, effectivement. Mais malgré tout, les vestiaires, c'est quand même 120 mètres carrés. Hein. Et c'est vrai que quand on s'en rend pas forcément compte. Il y a un autre vestiaire également, mais qui était à l'époque, parce qu'il y avait aussi à l'époque des couloirs d'athlétisme. Ah il y avait effectivement aussi un... Alors aujourd'hui, alors on va les retrouver pour les JO, mais ça fait depuis, il me semble...
2016, je crois. Oui, dernier meeting...
Ah, c'était 2017, moi.
Oui, bah justement, ouais. 2017 ou 16. Ouais.
Voilà, 2017, effectivement, que en tout cas, les couloirs n'ont pas été utilisés. Mais il y a également, en tout cas, un vestiaire de 400 mètres carrés dédié à l'athlétisme. Donc aujourd'hui, à mon avis, ils doivent être sur autre chose. Ensuite, ils ont un hôpital, une infirmerie.
Ça, c'est fou, ça aussi.
C'est-à-dire qu'il y a forcément, il y a des personnes dédiées. Sachant qu'ils ont quand même les massages, la pièce de massage, justement, pour les aider. Mais il y a effectivement un espèce de petit hôpital en sous-sol. Donc pour toutes, bien évidemment, grosses blessures, mais pas que. C'est-à-dire pour...
S'il y a un malaise dans les tribunes,
exactement,
par exemple.
Exactement, pour les spectateurs, etc. Et à côté de l'hôpital, ou en tout cas pas très loin, il y a une prison.
Alors ça, franchement, quand tu me l'as dit, j'étais halluciné.
Alors moi aussi, quand j'ai appris qu'on allait aller visiter une prison, moi je me suis dit, comment ça, il y a des barreaux qui sont dans les sous-sols du Stade de France. Et effectivement, il y a des salles de détention. Alors... C'est assez sommaire quand on y va, c'est-à-dire qu'on descend, il y a un bureau en fait où je pense qu'il y a une personne du coup qui reste, et c'est pour tout comportement qui peut être en tout cas non toléré, répréhensible. Soit ça peut être des bagarres, ça peut être quelqu'un effectivement qui a peut-être un petit peu trop bu, quelqu'un. Alors nous, ils nous ont donné l'exemple tout simplement il y avait une personne qui avait décidé de se soulager au-dessus d'une tribune.
Ah ouais.
Il a fini effectivement en prison. Dans sa cellule.
À la casse-prison du Stade de France.
Exactement. Mmh. Et malgré tout, c'est que quand on dit quand même que c'est une prison, c'est qu'il y a quand même prise d'empreinte. C'est pas juste on vous met au calme pendant un temps. Il y a vraiment prise d'empreinte, photo. Il y a plusieurs cellules individuelles et deux cellules, il me semble, qui peuvent accueillir 80 personnes. Alors je peux vous dire 80 personnes à l'intérieur de ces cellules-là, c'est serré. Parce qu'elles sont quand même assez petites. Mais en tout cas, il y a, c'est vrai qu'on pouvait se poser la question quand il y a justement des problèmes dans le stade, ou est-ce que ces gens, on les met dehors, est-ce qu'on les remet comme ça alors qu'ils ne sont pas forcément dans un état, ou est-ce qu'il y a quelque chose. Et bien effectivement, du coup, on le sait aujourd'hui, il y a en tout cas des pièces dédiées pour aussi protéger ces gens-là, bien évidemment, et les mettre un petit peu en exil, on va dire. Ensuite, bien évidemment, il y a salle de contrôle antidopage. Et donc ça, vous imaginez, multiplié par deux, hein, bien évidemment, parce que donc deux équipes. Et après, on va commencer à partir un peu plus sur le côté un peu plus VIP, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de place pour
les VIP. Ouais.
Les VIP. Alors, il y a les loges. On appelle ça des loges. Donc, il y a des petites loges. Il y a des plus grandes loges. Et la plus grande loge appartient bien évidemment au président. Et la loge... elle fait 400 mètres carrés.
Ça, c'est hallucinant.
Et
400 mètres carrés.
400 mètres carrés de salon.
C'est 8 fois mon appart.
Voilà. je pense que c'est plus grand que beaucoup de personnes, en tout cas, de là où ils vivent. Et en fait, alors, c'est marrant parce que dans ce... Donc, pour avoir eu l'opportunité de le visiter, donc, il est vide. Ils mettent le mobilier au moment où, bien évidemment, il y a les,
ouais.
y a les représentations. Et puis, je pense que certains, à mon avis, peut-être ont des exigences de ce qu'ils voudraient ou s'ils reçoivent aussi peut-être du monde. Mais en tout cas, à l'intérieur de ces 400 mètres carrés, donc c'est un peu divisé en trois. Donc, il y a un peu trois blocs avec les vitres, en fait, pour pouvoir regarder. Bien évidemment, un accès direct à leur siège, donc aux tribunes présidentielles, qui sont en général, si vous le voyez, en fait, il y a un espèce de bord bleu. Qui sont posés, ils sont juste au-dessus de l'entrée des joueurs.
D'accord.
Et notamment, il y a une place qui est dédiée au président. Donc là, en ce moment, on dirait pour Emmanuel Macron, qui est la place, retenez-la bien si vous voulez aller au Stade de France, prenez-la. C'est la place numéro 3123.
Donc en gros, dès qu'il y a un événement là-bas, il a son siège.
Il a son siège.
D'accord.
Et son siège, avec en dessous des écrans, qui sont placés au moment des représentations, donc qui sont à peu près à hauteur de genoux, mais en tout cas, ils peuvent avoir une vue sur tout. Et ils ont, bien évidemment, une des plus belles vues sur le stade, étant donné qu'ils sont au milieu, pile à l'entrée des joueurs. Et notamment aussi, c'est là où il peut y avoir des anciennes légendes aussi, qui en tout cas se posent vers cette loge présidentielle, comme on pouvait le dire. Et si on reprend effectivement donc, ce grand salon, ou ce penthouse du Stade de France pour le président, à l'intérieur, il y a quand même, parce que vous imaginez bien que la sécurité du président doit être assurée,
maximale, ouais.
Il y a un bunker.
Dans le Stade de France
dans le salon,
oui, d'accord, ouais.
Du président, pour, on ne sait jamais. Alors, je ne sais pas si par exemple, s'il y a, comme on a déjà malheureusement vécu, s'il y a attentat ou quoi que ce soit, voilà, il va se réfugier, il y a tout ce qu'il faut, le téléphone rouge en général, etc. En tout cas, il y a un petit bunker et la porte est relativement assez invisible en fait. Alors déjà, pour accéder à la loge présidentielle, bon, faut y aller.
Ouais.
Mais voilà, en tout cas, il y a ce bunker-là. Donc effectivement, comme on a dit, divisé en trois, il y a une grande place, en tout cas, à mon avis, doivent pouvoir recevoir. Il a également donc accès à un auditorium, très bel auditorium, qui est quand même assez grand, avec un bon nombre de places. Et notamment, cet auditorium, il sert pour les conférences de presse.
Ah oui, d'accord.
Du président.
Au Stade de France.
Au Stade de France. Donc en fait, il a son endroit avec, à mon avis, des journalistes qui sont triés sur le volet à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas non plus 200 places, même s'il est quand même très grand l'auditorium, capitonné dans sa loge pour pouvoir donner en fait une conférence de presse. Et c'est d'ailleurs pas le seul à donner une conférence de presse dans l'auditorium, étant donné que je suppose qu'il y en a d'autres qui sont mises. Mais voilà, donc en tout cas, il a son petit endroit qui est en tout cas très charmant. Peut-être qu'il faudrait refaire la moquette, je ne sais pas, mais en tout cas, il était quand même. En tout cas, c'est une très très belle loge. Il y a également donc, des salles de répétition pour les musiciens et les figurants.
D'accord. Pour les concerts.
Pour les concerts, effectivement. Donc, il y a des salles qui sont dédiées, qui ont en tout cas l'acoustique pour. Une salle pour les costumes, un espace de détente et effectivement tout le nécessaire aussi quand il y a les concerts pour les instruments, etc. Donc, le stade, c'est un petit village.
On l'imagine pas quand on va juste voir des matchs.
Non, il manquerait plus que la boulangerie et la boucherie. Et puis je pense que le Stade de France, c'est effectivement une ville, on peut l'appeler. voilà, moi j'habite au Stade de France. C'est parce que bien évidemment, il y a une multitude. Quand vous voyez, il y a une multitude. Il y a les sanitaires, il y a tout. Mais voilà, c'était assez incroyable en tout cas, et de voir surtout le process pour aller en fait à ces endroits-là où on voit que tout le monde ne se croise pas, que forcément le présent également, tout le monde ne le croise pas non plus pour que lui puisse arriver à sa loge. Et voilà, en tout cas, c'était très riche. Alors moi, j'ai été le visiter, effectivement, le stade, il était en rénovation.
Oui.
Enfin, il l'est toujours d'ailleurs en rénovation, à l'heure où on vous fait le podcast, vu qu'il va terminer quoi
Dans quelques semaines, je pense.
Ouais, j'allais dire avril. Oui, mais j'allais dire avril. Ouais. En tout cas, mi-avril. Donc, c'était assez bizarre de voir le stade sans sa pelouse.
J'imagine, ouais.
Enfin, la pelouse était recouverte, mais dans tous les cas, elle va être changée ou autre. Et c'est vrai que donc, ça fumait, on vous mettra les images, mais ça fumait un peu le goudron. Et c'est vrai que pour moi, avoir été pour justement un match, on perd cette ferveur quand on est à l'intérieur, parce qu'on voit, on se dit, mais moi, quand j'y suis allée, c'était tellement rempli. Et puis c'est marrant, parce que quand on voit de l'extérieur, quand on est dans les gradins, on se dit, mais non, le stade, il n'accueille pas 80 000 places, en fait.
Oui, ça, c'est vrai.
Mais quand il y a les gens, on se dit, waouh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. Alors, donc, du coup, sur la rénovation, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis 2017, il n'y a pas d'athlétisme. Cependant, les couloirs de l'athlétisme reviennent. La couleur des couloirs, alors...
En exclusivité.
Alors, je ne sais pas si c'est déjà sorti, mais je ne sais plus si c'est déjà sorti ou pas, mais en tout cas, ils seront violets.
D'accord.
Mauve-violet. Mais ils seront détruits juste après les Jeux Olympiques, il me semble qu'en tout cas, c'est pas les couloirs qu'on va garder. Enfin, on va pas les garder. En tout cas, les pistes d'athlétisme ne vont pas être gardées au Stade de France. Mais je pense que tu pourras nous en parler par la suite pour les futurs projets, en tout cas, du Stade de France. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se passer autour du Stade de France, que c'est la grande question. Mais on va quand même pas se leurrer. Le Stade de France reste quand même un peu notre héritage aussi sportif, et notamment par cette belle Coupe du Monde qui a été réalisé là-bas. Mais voilà, en tout cas, pour tous ceux qui veulent, en tout cas, visiter,
on peut.
Exactement, ça prend pas beaucoup de temps et c'est super intéressant d'aller voir un petit peu tout ce qu'on peut pas voir, en tout cas, quand on va voir un match de foot. Et il me semble que je n'ai pas oublié de petites pièces secrètes. Je vous ai dévoilé tous les secrets, justement,
du Stade
de France.
Je ne crois pas, donc tu as dû...
Voilà, mais en tout cas, moi, le seul truc que je retiens, c'est que la prochaine fois, je veux m'asseoir sur la place
31-23.
Ou la 31-22.
The first lady.
Si auquel cas elle ne veut pas aller, parce qu'effectivement la vue était magnifique. Et donc du coup justement, là le Stade de France, bon bah il est en inactivité pour l'instant, mais pas totalement en inactivité d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'il y a au Stade de France, Jérôme ?
Alors tu as parlé auparavant donc de cette inauguration le 28 janvier 98, donc ce match amical, oui. France-Espagne, qui est donc le premier de l'histoire au Stade de France, et évidemment 1-0 pour la France contre l'Espagne, qui a marqué évidemment. Zidane, qui est le
bien
joueur
sûr.
Un peu emblématique de ce stade. On va le voir pourquoi après.
Légende.
Voilà. Ensuite, donc, le Stade de France, donc, évidemment la Coupe du Monde 98, même si auparavant il y a eu quelques matchs aussi, donc les finales de Coupe de France et de la Ligue, je reviendrai après rapidement aussi.
Oui, mais c'est vrai que son objectif quand même premier restait quand même
Oui, la Coupe du Monde 98. Donc on a eu 9 matchs en 98, dont le match d'ouverture Brésil-Écosse et évidemment des matchs de l'équipe de France, dont je crois le quart de finale face à l'Italie gagné au tir au but, la demi où Thuram met son doublé donc contre la Croatie, et évidemment cette finale légendaire où j'étais dans le stade d'ailleurs.
Oh.
Et oui.
Ah mais c'est vrai que t'avais l'âge toi.
Contre le Brésil donc 3-0 avec ce doublé de Zidane de la tête.
Sublime, voilà. Sublime. Je pense que tout le monde se rappelle de ce moment majestueux.
J'ai fait un petit bilan chiffré, donc l'équipe de France de football a joué en tout 114 matchs au Stade de France.
Waouh.
Alors un bilan donc 64.
C'est marrant parce qu'en 26 ans j'aurais peut-être dit plus.
Et ben non, parce que récemment en fait on a quand même pas mal délocalisé.
C'est vrai.
En province.
Ouais, c'est vrai.
On joue moins au Stade de France. Donc le bilan, 74 victoires, 22 nuls et 18 défaites. Mais seulement 6 en matchs officiels, on va dire, parce qu'il y a pas mal de matchs amicaux, donc
oui,
quand même, ça reste quand même une forteresse. Alors j'ai fait une petite liste des matchs mémorables, donc je répète le match France-Brésil, donc 12 juillet 98, évidemment, hyper connu. J'ai mis également anecdote un peu marrante, en 2004 on avait eu un match pour le centenaire de la FIFA où France-Brésil avait joué avec des maillots vintage, tu te rappelles ou pas ? Un peu des polos en laine. On mettra les images.
On va essayer de vous trouver,
oui,
les
voilà,
images.
C'était assez sympa
de comme, ça.
Alors après il y a un autre grand match, France-Italie 2006, c'était après la défaite en finale de la Coupe du Monde contre l'Italie. On s'était vengé un petit peu en match d'éliminatoire de l'Euro, bon, moins important du coup.
France-Italie, c'est jamais un bon...
on gagne 3-1, après j'ai noté un match qui est très très connu, la main de Thierry Henry contre l'Irlande. En 2009, donc ça a fait un match qui a fait un énorme buzz.
C'est fou ce que ces petites choses-là peuvent ouais. Mais c'est rentrer en fait dans l'histoire. Juste,
Après, j'ai marqué également le 19 novembre 2013, une grosse hit contre l'Ukraine pour aller en Coupe du Monde en barrage. On avait perdu 2-0 au match aller, on gagne 3-0 au retour avec deux buts de Sako, c'était un match assez connu. Malheureusement, un mauvais souvenir, la défaite à l'Euro en 2016 contre le Portugal.
Oui.
En finale. Et également dans la série des très très mauvais souvenirs, le 13 novembre 2015, attentat terroriste.
Tout à fait.
Pendant un match de foot, donc France-Allemagne.
Tout à fait.
C'est vraiment une heure assez sombre.
La journée noire de la France.
Alors j'ai noté pour l'équipe de France, la plus forte affluence au Stade de France, c'est 80 051 à France-Ukraine en 2007. Pardon, voilà. Donc comme j'ai dit auparavant, il y a eu d'autres matchs de foot forcément au Stade de France. Toutes les finales de Coupe de France et de la Ligue avant que celle-ci soit annulée récemment, en 2020. On sait que Paris et le PSG a souvent gagné donc, les Coupes de France et de la Ligue, donc 10 Coupes de
Bien
France
sûr.
Et 8 Coupes de la Ligue. Mais le record d'affluence, c'est le derby breton de Guingamp-Rennes en 2009.
Oui.
Donc, on imagine que la Bretagne entière était là. Au
mais ils se déplacent tout le temps.
80 056 spectateurs. Donc,
c'est énorme.
Voilà. Alors, on sait qu'il n'y a pas que du foot à Stade de France. Il y a également du rugby. C'est également l'antre de l'équipe de France de rugby. Donc, depuis...
bah, en tout cas, c'est qu'on a des beaux souvenirs là-bas.
Voilà, donc... L'équipe de France joue très souvent là-bas, donc 6 nations, Coupe du Monde, on va y venir après, même les finales de 14 d'ailleurs. Sauf en 2016, anecdote, vu qu'il y avait l'Euro 2016 en France.
Ah bah oui, oui.
On avait délocalisé la finale top 14 à Barcelone. Eh oui.
Ah oui, mais c'est vrai que 2016 a été une année extrêmement riche en...
Oui.
Effectivement, pendant l'été.
Et donc, et cette année, donc forcément, elle n'aura pas non plus lieu au Stade de France, elle aura lieu à Marseille, la finale du top 14.
Oui.
Mais d'ailleurs, ce que j'ai vu, c'est fou, c'est qu'on pourra la voir au Stade de France sur des écrans, dans les loges, par contre.
Oh et d'ailleurs, petite anecdote que j'ai oubliée,
oui.
C'est quand même 200 mètres carrés d'écran
oui.
au Stade de France. Pour les JO, ils sont en train de les changer pour avoir 500 mètres carrés de chaque côté d'écran. Je sais pas, c'est les plus, alors c'est les plus, pareil, c'est les plus grands, c'est les plus grands d'Europe. La structure doit soutenir ça. Mais voilà, je voulais vous préciser, vous pourrez aller voir, il y a suffisamment. En tout cas, c'est que l'écran, il va faire quand même plus que la loge de Macron. Donc.
Mais donc, ce qui est drôle, c'est que sur l'affiche donc de la finale de Top 14, il y a marqué Stade de France parce qu'ils sont partenaires en fait. On pourra voir les matchs là-bas.
Ah.
Donc c'est à Marseille, mais le Stade de France
en
est sur
l'affiche. En gros, ça, ils vont faire comme un petit village de fans, une fan zone au Stade de France
pour les VIP. Ouais,
très bien.
Donc par rapport au rugby, je reviens un petit peu au grand match de l'équipe de France, donc au Stade de France. Donc d'abord le bilan. Donc premier match en 98 contre l'Angleterre, 24-17 pour nous, c'est l'estination.
Nous on aime bien quand on gagne l'Angleterre.
On avait bien commencé, donc le bilan global c'est 67 victoires, 2 nuls, 34 défaites. La dernière, on s'en rappelle,
oui.
Afrique du Sud.
Très bien, on s'en rappelle. Enfin, on n'a pas envie de se la rappeler. Elle est encore douloureuse.
Alors, les grands matchs, j'en ai noté quelques-uns. Donc, Coupe du Monde 2007 qui avait lieu en France. Donc, on bat la Nouvelle-Zélande en quart de finale, 20-18. Mais après, on perd contre l'Angleterre en demi, malheureusement.
On a toujours les Anglais.
On a également finalisé quelques grands chelems Six Nations au Stade de France. 4 fois en tout, 2002, 2004, 2010, 2022, je crois. Et à chaque fois contre l'Angleterre. Non, pardon, 3 fois sur 4 contre les Anglais. Donc, des bons souvenirs. Un truc qu'on ne sait pas forcément, en 99, la Coupe du Monde de rugby, elle était sur plusieurs pays. Il y avait eu un match au Stade de France, un seul, le Australie-Pays de Galles de quart de finale.
Donc en fait, même pas nous ?
Non, non. Donc en fait, il y a eu 3 Coupes du Monde en tout au Stade de France. Puisqu'il y a eu 2 que en France et une qui était avec un seul match en France.
C'est peu hein, quand même, quand on regarde.
Oui, mais à l'époque, c'était la Coupe du Monde qui était dans tous les pays britanniques et
oui,
la France.
C'est vrai, c'est
voilà.
vrai.
Et du coup, il y a des matchs également à Lyon, etc. Voilà, donc un seul au Stade de France. Donc évidemment, on a eu donc 2 Coupes du Monde en France, on le sait, 2007 et la dernière, donc 2023. Il y a eu 3 stades en tout qui ont accueilli 2 finales, le Coupe du Monde, Twickenham, l'Eden Park, Nouvelle-Zélande et maintenant donc le Stade de France.
J'avais eu la chance d'aller à l'Eden Park.
Record d'affluence, donc c'est le rugby, 80 430 pour la finale de Coupe du Monde 2007 entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre, donc hélas sans la France.
Ouais. Qui avait remporté ?
Ouais, Afrique du Sud.
Bah oui,
Afrique du Sud qui bat les Anglais. Donc. Un petit topo rapide donc, des autres événements donc, foot et rugby qui ont eu lieu au Stade de France. Finale de la Coupe d'Europe de rugby de club en 2010, Toulouse bat Biarritz dans une finale 100% française. On a également eu pas mal de matchs du Stade français rugby de saison régulière. Pas mal de matchs également du club de foot de Lille, notamment en Ligue des Champions quand ils étaient qualifiés parce que le stade de Lille n'était pas assez grand pour accueillir les matchs.
Oui.
Des finales de Champions League 2006-2022, un souvenir assez mauvais parce qu'il y avait eu un des petits problèmes entre les supporters de Liverpool et du Real. Donc c'était un...
Oh bah, ça m'étonne pas qu'il y ait des Anglais qui soient impliqués, disons.
Bon, après, c'était pas forcément eux les premiers fautifs.
Non.
Et on va en parler un petit peu après. Donc le Red Star avait également joué parfois au Stade de France parce qu'il y a ce fameux débat de club résident. On va l'aborder.
Tout à fait. Alors, effectivement, on va pas l'aborder. Et ça me fait penser à quelque chose, justement, quand tu parles de toutes ces affluences qu'il y a pu y avoir au stade. Il faut savoir aussi que le Stade de France, c'est le plus rapide pour en sortir. C'est-à-dire que c'est le plus grand avec le plus de capacité. Et c'est celui dans lequel on sort le plus rapidement, étant donné que la sortie de 80 000 spectateurs se fait en moins moins de 7 minutes.
Il a vraiment été étudié pour ça, en fait. Et,
mais en fait, que c'est là où on voit que tout ce qui est à l'intérieur et tout ce qui est à l'extérieur, en tout cas, tout est fait pour que ce soit extrêmement fluide dans le déplacement. Parce que par contre, si on va dans un autre stade, qui n'est pas très très loin non plus, vous ne mettrez pas 7 minutes pour en sortir, ça c'est sûr.
Je fais également un petit topo rapide des autres sports qui ont élu domicile au Stade de France. Donc on a eu le meeting de Paris de 1999 à 2016, qui depuis est parti à Charletti.
Oui, tout à fait. Bah, là, voilà, parce que l'athlète, de toute façon, a quitté...
Les mondiaux d'athlète 2003, édition historique pour la France, qui a fait ses meilleurs mondiaux de l'histoire. Elle a fini troisième nation, avec notamment, le dernier jour, deux médailles d'or, c'était incroyable. Eunice Barber à l'heptathlon et le 4x100 mètres féminin, record de France, avec notamment Christine Aron. Et anecdote également, le relais 4x4 a une médaille d'or plus tard parce qu'il y avait un problème de dopage. Donc du coup, ils ont récupéré une médaille en plus, je crois, il me semble, 2 ans après, pardon. Voilà. Donc c'était le meilleur total de l'histoire de la France au mondial d'athlètes, donc 3 médailles d'or. On a également de l'automobile, ou des sports mécaniques du moins,
oui,
au Stade de
alors
France.
Oui, mais ça c'est très particulier.
On a eu du trophée Andros, ouais, plusieurs fois, de 1999 à 2008. On a eu ce qu'on appelle la Race of Champions, 2004-2006. Et on a eu les mondiaux de motocross, 98 et 99.
Ouais, et ça serait, à mon avis, j'aurais bien voulu aller voir ce type d'événement parce que j'essaie encore de comprendre exactement comment ça s'était fait à l'intérieur, et ça a dû être exceptionnel à aller regarder.
Et alors là, on bascule dans autre chose, le e-sport.
Et oui.
Car on parlait de club résident à l'instant, et en fait, il y a un club résident depuis, je crois, 2019 au Stade de France.
Tout à fait, il y a l'e-game qui est arrivé.
La Team Vitality.
Oui.
Qui a installé un centre d'entraînement en fait au rez-de-chaussée dans un petit coin, on sait pas trop.
Alors un petit coin qui est quand même plutôt grand, en tout cas qui pulse au niveau des machines.
Voilà. Mais alors, par contre, il n'y a pas encore de compétition au Stade de France.
Non.
Ça, apparemment, c'est prévu. Le Stade de France se dit e-sport ready. Donc voilà. C'est...
Oui, mais parce que ça prend de plus en plus aussi d'importance. Le e-game, on est en plus, on a la chance d'être quand même très très bon. En tout cas, dans ce domaine, on a des très bonnes teams. Et d'ailleurs, il n'y a pas que au Stade de France qu'on a une résidence.
On a la Carmine Corp qui, effectivement, est le premier club, je crois, européen à avoir son propre stade.
Exact.
À Évry-Courcouronnes.
Exactement, mais bientôt, on va aller regarder quand même des gens jouer sur un ordinateur. Mais c'est assez, franchement, par contre, c'est assez fou l'ambiance sur les games. Donc, très bien qu'ils aient un endroit pour s'entraîner, qui plus au Stade de France.
Bon, tu parlais, évidemment, on a parlé auparavant des JO. Donc, évidemment, si le Stade de France est actuellement en travaux, c'est pour être tout beau, tout neuf pour les JO.
Exactement, parce qu'il va quand même. Et quel sport il va accueillir d'ailleurs?
Alors, donc, ce sera le Stade olympique officiel.
Oui.
Et il y aura donc les épreuves d'athlétisme et de rugby à 7, plus l'athlé pour les paralympiques.
Donc, voilà.
Donc, voilà. Et justement, j'ai fait un petit tour dans l'histoire. Combien de stades ont accueilli à la fois ce qu'on appelle les deux plus gros événements sportifs au monde, la finale de la Coupe du Monde de football et était stade olympique? Il n'y en a pas tant que ça en fait.
Non.
On en a d'ailleurs. Mais il y en a un français.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai appris ça effectivement qu'il y en avait un français.
Le stade Yves du Manoir, donc a accueilli les JO en 1924 et la finale de la Coupe du Monde en 1938.
Mais en même temps, au final, pas si surprise que ça, étant donné que c'est quand même également un stade extrêmement mythique.
On a également le stade olympique de Rome, donc olympique en 1960 et Coupe du Monde en 1990. On a Berlin qui avait accueilli malheureusement les JO des nazis en 1936.
Tout à fait, on vous en parlait dans le podcast et enfin également cette période où ces JO là, et notamment c'est là aussi où le relais de la flamme avait commencé à voir le jour pour de mauvaises raisons.
Et donc Coupe du Monde à Berlin en 2006. On a également Munich qui a accueilli les JO en 72 et la Coupe du Monde en 74. C'était un petit peu l'époque où l'Allemagne cherchait un petit peu à redorer son blason, son image. Donc, voilà.
J'imagine bien.
Je précise qu'il y a également d'autres stades qui ont été au JO sans être en fait le stade olympique officiel. Par exemple, Wembley en 2012, c'était
oui.
Pas le...
Voilà, donc. Oui, mais là, c'est vraiment en tout cas ceux qui ont eu les deux casquettes assez, sur ces événements.
Et du coup, donc Paris va devenir le seul stade au monde qui a accueilli les JO, la finale d'un championnat de football et de rugby.
Exactement. mais nous, le sport, il est chez nous.
Voilà. On va terminer un petit peu par un côté business. Donc on sait que la concession en fait, du Stade de France a commencé en 1995 et elle durait 30 ans.
Oui.
Donc l'État est propriétaire du stade, mais oui, a cédé une concession, donc un consortium.
Alors il y a un consortium effectivement. Alors le consortium actuel, il est entre Bouygues Construction et Vinci. Donc 33% pour Bouygues et 67% pour Vinci. Et on va dire qu'on leur donne un peu d'argent.
Alors en fait, il y avait donc une espèce de clause dans ce contrat, c'est qu'en fait, s'il n'y a pas de club résident au Stade de France, l'État paye une espèce de pénalité donc au consortium.
Alors du coup, vous le contribuable, vous payez
malheureusement donc
ouais, une sacrée amende qui s'élève à hauteur de 16
millions d'euros par an.
Voilà, 16,5 je crois.
Oui.
16,5 millions.
C'est pour ça
an.
Que depuis ces 30 ans, on a toujours cherché à installer un club résident au Stade de France.
Exactement.
Notamment le Red Star à l'époque, qui a fait des matchs de Ligue 2 au Stade de France. Mais le problème, c'est qu'il faut remplir le stade à tous les matchs. Donc c'est...
Mais voilà, le problème qu'il soit le plus grand et qu'il ait effectivement ces 80 000 places, c'est effectivement un très bon point, mais c'est aussi un désavantage pour justement ce genre de choses. Mais malgré tout, 16,5 millions, c'est... Mais bon, on arrive bientôt à la fin.
Donc voilà, donc l'État donc relance cette offre pour 2025. Alors, en fait, il y a deux choses différentes. L'État pourrait aussi bien vendre le stade que redonner la concession. Donc c'est encore en pourparlers. Je crois qu'il y a eu deux candidatures pour la concession, donc les mêmes. Donc,
bien sûr.
Et je crois donc Vinci Bouygues, également GL Evans, je crois qu'il fait partie de l'appel d'offres.
Ok.
Donc voilà, on saura plus dans pas très longtemps.
Après, ce qui est bien, c'est qu'il me semble que pour l'instant, il n'y a pas de touche pour la vente.
Non, et par contre, j'ai lu que non seulement... l'athlète pourrait disparaître du Stade de France. Il n'aura certainement plus.
Alors, moi, effectivement, c'est ce que j'ai vu. C'est que même si là, ils font les pistes, mais après, de toute façon, elles sont détruites. Effectivement, normalement, l'athlète ne reviendra pas au stade.
Et j'ai même lu que la FFR, donc la Fédération de rugby, pensait également à quitter le Stade de France et à jouer en province.
Très bien. On va peut-être aller le vendre, en fait, notre Stade de France.
En tout cas, voilà, on arrive à effectivement...
Non, mais après, très sincèrement, c'est, quand on le voit, il est majestueux, il est magnifique, il est tout ce qu'on veut, mais effectivement, il est lourd dans le sens où il est énorme, en fait, il est très très grand.
Donc forcément, là, on arrive 2024, JO 2025, donc nouvelle concession, c'est vraiment un carrefour pour le Stade de France.
Exactement, donc on saura incessamment sous peu, entre guillemets, de toute façon, fin d'année, ça va être commencer à voir un petit peu ce qui va pouvoir se passer ou ce qu'on va en faire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le stade, il me semble qu'il est classé, donc il ne pourra pas être...
Juste une petite parenthèse, on avait également dit à une époque que le PSG pourrait se placer pour le racheter, mais en fait...
Oui,
non,
mais
c'est
là,
pas,
on sait que c'est...
C'est pas fait. Donc,
non, là, on sait que c'est pas bon. Donc, voilà, donc, pas bon du tout.
Le Paris va soit rester au Parc des Princes, soit faire à son stade à lui autre part, en fait.
Mais, et puis, je crois qu'ils sont plus partis pour aller faire leur stade. Donc,
Là aussi, on en saura plus assez rapidement. Donc, voilà.
C'est que pour l'instant, ouais, il y a quand même un grand point d'interrogation sur tout ça... Pour en tout cas même ces deux stades, hein, qu'est-ce que le Stade de France et même pour le Parc des Princes effectivement avec le PSG.
Donc voilà, un petit peu on a fait le tour de l'histoire, du présent et de l'avenir de ce Stade de France. Donc
voilà. Donc maintenant vous savez effectivement déjà de un pourquoi il est construit, parce que je pense qu'il y en a peut-être plein qui ne se doutent pas qu'effectivement comme à l'image en fait de ceux qui accueillent en général les JO ou les gros événements, ou comme on avait pu dire par exemple, même si on l'a fait quand même bien évidemment de la meilleure manière, quand le Qatar il est en train de faire, il construit, on l'a fait de la meilleure manière nous,
voilà.
Mais en fait on l'a construit exprès pour
un événement.
Justement un événement.
C'est souvent le cas d'ailleurs. Ouais.
Effectivement. Après il y a le côté où on construit un endroit qui est quand même crucial aussi, parce que Saint-Denis, il y avait aussi le côté d'aller revaloriser la ville de Saint-Denis pour apporter aussi une effervescence là-bas. Et maintenant, il est réputé, en tout cas, il est très bien, facile d'accès aussi,
oui.
Très bien placé. Mais voilà, en fait, j'aimerais bien savoir, dites-nous si vous le saviez, effectivement, que le stade, il était quand même juste pour un événement, et en plus, un événement qu'on a remporté.
Tout à fait, donc c'est vraiment un souvenir qui est totalement lié à ce stade. Voilà,
voilà. Et donc si vous voulez en tout cas en savoir plus, comme je vous l'ai dit, n'hésitez surtout pas, si vous êtes en tout cas à Paris, en banlieue ou même en province et que vous venez faire un petit tour à Paris, la visite est extrêmement intéressante et vous pourrez vous asseoir sur le siège en tout cas du président.
Ah, tu tiens vraiment à celui-là, le 31-23?
Mais parce que très sincèrement, j'ai été assez surprise et je me suis dit, mais non, mais moi je veux plus être dans les gradins spectateurs. Et je veux également son penthouse
à la loge.
Je demanderai la prochaine fois.
D'accord.
Non, mais vraiment, il est très bien fait, très beau. C'est encore quelque chose que l'on garde. Il y a quand même une vraie histoire derrière le Stade de France. Donc voilà. Et comme on l'a dit, c'est le Stade de France. Donc il était important aussi pour nous de pouvoir, en tout cas, vous raconter un petit peu son histoire. Et si même vous avez d'autres anecdotes sur le Stade de France, n'hésitez surtout pas, en tout cas, à nous les mettre en commentaire, parce qu'on sera ravis. On ne voulait pas non plus vous faire un podcast trop long. C'est pour ça que je vais aussi arrêter de parler maintenant. Mais voilà, n'hésitez pas, en tout cas. Et même si vous avez déjà été voir des matchs, n'hésitez vraiment pas à nous dire en commentaire. On adorera, en tout cas, pouvoir vous lire.
Top, Sandra, merci.
Ouais, merci Jérôme. Et on se retrouve à tous la semaine prochaine.
Ciao.
Salut.